Bonjour à tous, bienvenue à cette célébration de ce dimanche. Bienvenue à ceux qui sont ici dans la salle, bienvenue à ceux qui sont en ligne. Et je vais prendre ce petit texte des psaumes, du psaume 148 qui dit « Jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Alors prenons ce premier chant tous ensemble.
Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux.
Quelle joie!
Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Que nous n'irons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas.
Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, ô Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Quelle joie. Nous ne nous tairons pas. Dieu, nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas.
Ce prochain chant qui dit, qui élève le nom de Jésus, car c'est Jésus qui nous rassemble ce matin. Aucun autre nom n'est au-dessus de son nom, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Et c'est ce nom qu'on célèbre ce matin. C'est ce nom qui nous sauve, c'est ce nom qui nous libère, et c'est ce nom qui nous permet de nous appeler frères et sœurs. Alors on va prendre ce chant qui dit, le nom de Jésus est plus haut que tous les noms.
Majestueux Seigneur,
louper tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus peut louper tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous avons la victoire, ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Omega, aucun nom n'est comme le sien. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.
Aucun autre Dieu,
aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ est ressuscité. Nous les levons plus haut. Oh, oh. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous les levons plus haut. Oh, oh. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom.
Le nom de Jésus.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.
Et on va redire aucun autre Dieu.
Dieu a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous les levons plus haut. En son nom, les genoux fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom.
Au nom de Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus.
Tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.
Alléluia, alléluia.
Aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Nous voulons te proclamer. Nous voulons proclamer. proclamer que tu es Seigneur. Nous proclamons que tu es notre Sauveur ce matin. Alléluia. Au-dessus de tout, tu es.
Seul auteur de la création, en toi tout est perfection, tu subsistes éternellement. Vois la vérité incarnée qui tient l'épée à deux tranchants. Ta parole reflète ta sainteté, juste et bon sont tes jugements.
Et on va dire ensemble, ton Église proclame.
Ton Église proclame Jésus notre Sauveur, déclaré Fils de Dieu avec force et puissance.
Ton Église proclame.
Ton Église proclame Jésus notre Seigneur.
Tu es vainqueur.
Tu es vainqueur et apporte la délivrance. Nous abandonnons les yeux fixés vers le ciel.
Proclame tous ensemble.
Ton Église proclame Jésus notre Sauveur, déclaré Fils de Dieu avec force et puissance. Ton Église proclame Jésus notre Seigneur.
Et tu es vainqueur, Jésus.
Tu es vainqueur et apporte la délivrance.
Sors-tu encore une fois, ton Église proclame.
Ton Église proclame Jésus notre Sauveur. Fils de Dieu avec force et puissance
et autorité.
Ton Église proclame Jésus,
tu es Sauveur,
Seigneur.
Tu es vainqueur,
tu es vainqueur et apporte la délivrance.
À toi soit le règne, à toi soit la gloire ce matin. De toute puissance, de toute autorité. Et c'est toi seul qu'on veut élever. Alléluia. Élevons nos voix ce matin, tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix. Alléluia. Apportons-lui à ses pieds nos offrandes, nos mots, ce qui le glorifie. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Sois glorifié. Sois élevé au-dessus de tout. Majestueux, notre Seigneur. Notre Sauveur, merci. Oh,
Ta grandeur affranchie, nous vivons pour ton honneur.
Prosterné, nous reconnaissons ta grandeur. L'Église proclame Jésus notre Sauveur, déclaré Fils de Dieu avec force et puissance. Ton Église proclame Jésus notre Seigneur. Tu es vainqueur et apporte la délivrance.
Nous reconnaissons que tu es roi ce matin. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons que ton amour est tellement immense. Et c'est ce que nous voulons chanter. Ô l'amour infiniment grand. Alléluia. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut.
suis indigne, j'ai sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Me cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Je cherche aucune ombre, aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu.
Encore un instant debout ensemble, je voudrais soumettre à l'église une pensée et un texte qui est directement venu à mon cœur, que je voudrais vous lire maintenant, qui se trouve dans la lettre que Paul écrit à Romains, aux Romains, à l'église de Rome. Et Paul dit ceci: nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et la pensée que j'aimerais soumettre, c'est que la détresse touche, elle peut toucher, elle touchera ou elle a touché. L'épreuve, la souffrance, fait partie du chemin, et comme le dit Paul, qui lui aussi a vécu un certain nombre d'épreuves, hein, le rejet, l'abandon, il était en proie aux doutes, aux craintes par rapport à la révélation qu'il avait eue de Christ, toutes ces choses. Et en réfléchissant à ce texte qui est monté, cette pensée est venue que je voudrais vous soumettre. Bien souvent, on attend après quelqu'un qui va venir débloquer notre situation, quelqu'un qui aura plus d'aura, les solutions, plus d'onction. On attend vraiment un intermédiaire, quelqu'un qui va venir à un moment donné et hop, il va y avoir ce déblocage qui est là. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais rappelle à l'Église que l'amour de Dieu est répandu dans chacun de nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce matin, celui qui cherche la présence de Dieu, celui qui cherche l'amour de Dieu, il n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Le Saint-Esprit veut répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Il veut parler à ton cœur. Il veut que dans cette détresse, dans ces questionnements qui sont là, dans ces combats, dans les pensées, dans tout ce qui vient parfois nous écraser, nous dire qu'on n'est pas assez ceci, ou alors que nous-mêmes, des fois, nos pensées font que « Ah, c'est flemme, ah, c'est... » Et le Saint-Esprit, ce matin, je crois vraiment qu'il veut juste dire « Je suis là. » Et je veux répondre là maintenant. Encore une fois, une touche de mon amour dans ton cœur par la personne du Saint-Esprit. Alors je voudrais inviter et faire un appel à un disciple de Jésus, une famille, qui dans ce lieu traverse une détresse, ou traverse un temps où il a besoin, tu as besoin d'un temps de renouvellement. Qu'on puisse ensemble juste faire cette demande à Dieu, pas un intermédiaire, à Dieu, et de dire Seigneur ce matin dans ta présence, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. L'amour de Dieu répandu dans mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un dans ce lieu a besoin de cela et réfléchissait depuis un certain temps en disant « mais j'arrive pas à m'en sortir ou quoi », c'est juste le bon moment, je crois, pour quelqu'un de dire « mais oui, en fait, le ciel est ouvert pour moi. Il n'y a pas besoin que quelqu'un ouvre le ciel pour moi. Il n'y a pas besoin d'un professionnel de la compréhension du royaume de Dieu pour m'aider à comprendre et à m'ouvrir le ciel. Jésus a ouvert le ciel pour toi. » Pour toi. Et ce matin, on peut être dans un temps de recueillement, peut-être, Église. Et si toi, dans ce lieu, tu aspires et de dire, mais Seigneur, oui, réponds encore et encore et encore ton amour dans mon cœur. Et là, je ne parle pas d'émotion, je parle de conviction, je parle de foi. Bien sûr, ça peut venir te toucher ce matin, et tant mieux si ça te touche et ça te fait du bien. Si toi, tu as soif ce matin, tu peux faire comme tous les croyants dans la Bible et aujourd'hui qui crient après Dieu, je lève les mains vers les hauteurs, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alors tu peux élever ta main vers le ciel et dire oui Jésus, ta présence, le Saint-Esprit maintenant, renouvelle-moi. Seigneur, tu vois toutes les personnes, moi-même je lève ma main vers toi. Parce que je crois dans cette parole où tu dis « Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour a été manifesté en Jésus-Christ. Je te prie pour un temps de rafraîchissement, un temps de renouvellement, un temps où chacune, chacun qui aspire à cet amour est revitalisé maintenant, apaisé. Nous voulons par la foi dire que nous entendons les chaînes tomber maintenant. Rien ne peut nous arracher de ta main. Voilà les paroles que le Saint-Esprit veut mettre dans le cœur de quelqu'un. Ni la mort, ni le séjour des morts. Rien ne peut empêcher Jésus de continuer à bâtir le royaume de Dieu dans ta vie. Holy in the Scandi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes une église qui avons besoin et avons soif que tu répandes encore ton esprit, encore ton amour. Que ta paix qui surpasse toute intelligence soit l'objet de nos pensées maintenant. S'il y a une ombre dans la vie d'un de mes frères, de mes sœurs, un ami qui est là, qui vient l'oppresser, nous prions que cette ombre soit dissipée maintenant dans le nom de Jésus. Te prions pour un soulagement de l'esprit. Te prions, Seigneur, vraiment, parce que nous croyons que tu as tout accompli à la croix. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Que peut-être on puisse juste ensemble faire cette prière avec ce pont, aucune ombre n'est trop sombre, juste de le confesser. Et vous savez, dans la louange, il y a quelque chose qui précède la victoire. Quand on loue, on développe cette attitude de victoire. Quand on loue, on exerce notre foi. Et ce pont est vraiment bien inspiré de nous rappeler qu'il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Et crois que le Saint-Esprit œuvre dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas les émotions qui dictent. C'est la foi qui dicte, la confiance en Dieu. Alors on va confesser en tant qu'Église qu'il n'y a pas d'ombre là, que Jésus ne puisse dissiper. Les ténèbres sont vaincues au nom de Jésus. Toute oppression, toute fatigue est balayée par le renouvellement de notre intelligence, balayée par la présence de Jésus qui te rappelle que tu es aimé. Hier, tu es aimé aujourd'hui, peu peu importe l'état, tu es aimé aujourd'hui, peu importe ce que l'ennemi ou ce que tu te dis, Dieu te dit tu es aimé aujourd'hui. Et par la résurrection de Jésus, Dieu te dit tu es aimé demain. Alors on va le confesser ensemble, de toute notre âme, de tout notre cœur, qu'aucune ombre n'est trop sombre.
Qu'aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te mire, sans fin tu me cherches.
Réalisons qu'on est en train d'intercéder là maintenant.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches.
Réalise que tu es en train de prier ton Seigneur en chantant.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé, sans que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Amen. Là tu l'as confessé, on va entendre une autre parole, on reste vraiment dans cette optique d'écoute, de discernement. On va écouter Mathieu, après quoi on va encore prier, on va répondre à ce que Dieu dit.
Alors c'est une parole en prolongement de ce que Mathieu vient de dire, tout simplement en fait. J'avais aussi dans mon cœur à peu près la même chose, il y a quelqu'un qui est dans un moment de désert, qui s'est éloigné de Dieu par ses faiblesses en fait. C'est ses faiblesses qui l'ont conduit à s'éloigner de Dieu. C'est un moment difficile pour toi et tu ne sais pas comment faire. Et le Seigneur, du coup, te parle à une ou plusieurs personnes ce matin. Te dit, mon enfant, je t'aime. Mes enfants, je vous aime. Je vois en ce moment, c'est difficile pour toi ou pour vous. Le Seigneur te dit deux choses. Une première chose, repens-toi. Et j'ai vraiment un cœur qui te demande de faire un jeûne et une jeûne et prière pour le fait que tu te sois éloigné par tes faiblesses. Assez éloigné. Et le Seigneur te dit une deuxième chose, de donner ses faiblesses à moi, Jésus. Parce que je veux me glorifier dans ses faiblesses. C'est par mes faiblesses, c'est par tes faiblesses que je suis fort. Et si tu donnes, si tu te repens et si tu donnes tes faiblesses, alors je me glorifierai dans tes faiblesses. Et les gens autour seront étonnés de la manière dont je me glorifie dans tes faiblesses. Amen.
On va juste prendre le temps en église de peut-être prier pour quelqu'un qui se reconnaît dans cette parole de désert. C'est drôle parce que la pensée de dire, une personne qui ne sait plus trouver de la force, c'est une pensée que j'avais, mais qui se dit, ah, et puis là, je vais venir à l'église, et puis ça va être pareil. Eh ben non, en fait, parce que le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut t'encourager. Quand son peuple se rassemble, le Seigneur parle. Il est là aussi pour exercer sa grâce. Et on voudrait avec Mathieu prier et avec l'Église prier. C'est pour ça que je vous appelle au recueillement, vous qui êtes dans cette pièce, dans cette salle maintenant, et de peut-être quelqu'un qui signifierait de dire « Mathieu, oui, je suis dans un désert spirituel, j'ai besoin d'un retour à Dieu, j'ai vraiment besoin de ça, le Seigneur m'interpelle. » Juste pendant que nos yeux sont fermés, parce que c'est vraiment quelque chose de solennel, de formel, on veut respecter ça. Si tu es concerné par cette parole ce matin, juste, tu peux juste lever ta main et te faire connaître, qu'on puisse vous voir, on vous voit ensemble. Comme ça, tu vas prier pour eux. Voilà. Église, est-ce qu'on peut encore ensemble se lever? Parce qu'il y a des personnes qui étaient venues dans un désert et vont ressortir avec l'eau vive. Oh là 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 là. Il y a des gens qui étaient en train de marcher dans un désert et ils sont à la rencontre de l'eau vive maintenant. Les sources d'eau vive vont couler de leur sein. Parce que le Seigneur est venu les chercher. On va demander à Mathieu de prier pour eux. Pour vous, ces personnes, et vous, Église aussi, vous ne les avez peut-être pas vues, mais voilà, une dizaine de personnes ont levé la main en disant, Seigneur, ce désert-là, j'ai besoin d'en sortir, je me repens, je veux entrer dans du jeûne, dans la recherche de ta personne, et let's go.
Merci Seigneur, tu connais chaque cœur, tu connais chaque personne qui a levé cette main, Seigneur, tu connais chaque situation, tu connais chaque désert, Seigneur, et même dans le désert, Seigneur, tu es présent. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont levé la main, parce que, Seigneur, il y a un désir de repentance, Seigneur. Il y a un désir de changement, Seigneur. Que tu viennes les aider, Seigneur, dans leur parcours de repentance, Seigneur. Que tu viennes leur donner un amour puissant, Seigneur, qui surpasse tout, Seigneur. Qui viennes les aider, qui viennes les relever dans leur désert. Merci parce que tu as tout prévu, Seigneur. Tu es au contrôle de tout et tu veux aider chaque personne, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à faire ce parcours de repentance, à revenir vers toi, Seigneur, et à te donner leur faiblesse, Seigneur. Que c'est en te donnant leur faiblesse, Seigneur, que tu vas agir puissamment dans les vies de chacune des bien-aimés qui sont ici, Seigneur. Merci parce que tu es grand et tu as vaincu toutes ces faiblesses, tu as vaincu toutes ces choses à la croix. Merci pour ton amour, Seigneur, parce que tu veux aider chaque personne, Seigneur. Tu veux donner un souffle nouveau, Seigneur. Envoie un souffle nouveau dans ces vies, Seigneur. Un cœur nouveau, Seigneur. Merci parce que je sais que tu vas être au contrôle de toutes ces choses. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni. On peut prendre place ensemble. Et notre célébration, elle n'est pas terminée. Encore dans un instant, écoutez une parole d'encouragement pour édifier notre foi qui veut prendre vraiment racine dans la Bible. On veut aussi se donner quelques informations pour notre vie d'église, à commencer par l'accueil de nos tout-petits. Ils sont importants pour nous, on les aime. On veut vraiment encore le leur dire et c'est pourquoi aussi on veut pas seulement le dire, on veut être en action aussi. C'est pourquoi pendant l'été, toute la dynamique d'accueil des enfants, des primaires continue. Donc c'est pendant tout l'été, épisode, comment ça se passe. Il y a un accueil qui va être fait chaque dimanche pour les 4-5 ans. Donc si vous arrivez soit dans la région, vous êtes en vacances et vous souhaitez revenir dimanche prochain, vous avez des enfants de 4-5 ans, ils sont accueillis dans l'espace Petite Enfance qui est sur ma gauche, qui est sur votre droite. Il y a toute une équipe qui est là pour les accueillir. Et pour les plus grands, les 6-10 ans, il y a un accueil, il y a 3 événements dans l'été pour les accueillir. Il y en a un aujourd'hui et c'est l'objet aussi de mon encouragement, mon invitation. Merci aux personnes qui se sont inscrites pour pouvoir les accueillir. Ils ne font pas forcément partie du ministère du service des enfants, mais ils ont donné un dimanche de leur temps et ils sont au rez-de-chaussée-bas de ce bâtiment. Ils sont en train de vivre un bon moment de fun, d'écoute, d'accueil. Ils auront même de la pastèque à la fin à manger pour les rafraîchir. C'est trop bien, j'ai tellement envie de descendre. Et il y a encore d'autres événements qui vont arriver. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas de ce service de l'enfance, mais vous avez à cœur de donner un dimanche. C'est le bon moment. Vous pouvez aller tout de suite en sortant de cette grande salle à votre droite. Vous avez un espace vie d'église. Vous avez, si tu voudrais afficher, un QR code où vous pouvez vous inscrire, vous faire connaître et dire ben, « je voudrais donner un de ces dimanches ». Vous aurez toutes les informations sur quel dimanche. Magali, mon épouse, qui est la responsable au niveau de tout ce département-là, prendra contact avec vous, avec une équipe, et vous pourrez donner de votre temps pour accueillir ces enfants, parce que les enfants, ils sont importants. C'est la génération d'aujourd'hui qui influence aujourd'hui et qui influence demain. Qui impacte aujourd'hui, qui impacte demain aussi. Alors on veut les bénir et on veut vraiment les encourager. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps pendant cet été de dire « Ah, j'ai un dimanche, je peux le donner ». On a une information maintenant, dans un instant je vais laisser la place à Glenn Hackett, qui est le président des églises de l'Entente, des églises protestantes évangéliques de l'Entente, simplement parce que nous avons un événement qui va arriver dans quelques mois. C'est une grande célébration et je vais le laisser vous le présenter.
Les célébrations, c'est d'abord l'occasion de nous réunir après deux longues années pour notre culte en commun. C'est l'occasion de vivre la communion fraternelle, non seulement ici, mais avec nos frères et sœurs de toute la France, et de manifester ensemble notre unité en Jésus. Enfin, c'est aussi l'occasion de célébrer 500 ans de protestantisme évangélique en Alsace. Alors, réservez la date du samedi 4 octobre. On vous attend avec impatience au PMC.
Partout en France, les évangéliques se regrouperont autour du thème « Jésus-Christ seul ». À Strasbourg, nous nous retrouverons au cœur de la ville dès le matin pour aller à la rencontre des Strasbourgeois. Puis à partir de 15h30, rendez-vous au Palais de la Musique et des Congrès pour nos portes ouvertes. Village des associations, expositions, animations, food truck, il y en aura pour tout le monde. À 17h, nous nous retrouverons pour un grand culte en commun avec Michel Marvan, accompagné par le groupe MMK. Et un accueil spécial est prévu pour les enfants et les ados. Et à 20h, soirée louange et témoignage avec un groupe de louange inter-église. Un seul jour, une seule église, un même cœur. Célébration 2025.
On t'attend.
Soyez bénis.
Donc je vais me faire le porte-parole de l'entente pour l'église de Lépy. On vous attend, église de Lépy. Donc au fur et à mesure de l'été et jusqu'à octobre, on va vous faire parvenir les différentes informations. Il y a plusieurs services, plusieurs moyens de pouvoir servir aussi dans le contact de rue, dans plein de domaines. Donc on va ponctuer l'été et les prochains dimanches aussi de différentes informations. Là-dessus, donc l'information importante dès maintenant, c'est de savoir que nous aurons notre célébration avec les autres églises le samedi 4 octobre. Et donc le lendemain, le dimanche 5, il n'y aura pas de célébration. On veut vraiment maximiser au maximum un temps de célébration en commun avec tout le monde le samedi. Donc le dimanche, notez qu'il n'y aura pas de rassemblement ici. Ce sera vraiment tout porté sur l'entente. Voilà, on va maintenant laisser la place à Anne pour nous apporter le message ce matin. Et on va prier ensemble que le Seigneur bénisse encore ce moment important dans un culte, dans un temps de célébration, qui est de dispenser la parole et vraiment qu'elle vienne édifier nos cœurs. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le texte nous dit on n'y prend pas garde, on veut faire partie de ceux qui apprennent à faire garde à comment tu parles et comment tu interpelles. Merci de bénir maintenant ce temps important, où on médite, on est ensemble, avec les yeux plongés dans ta parole. Merci de bénir Anne, chacun de nous, ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Demande vraiment ta grâce et ton accompagnement afin que ta parole, elle produise en nous de bons fruits. C'est tellement pour cela qu'on se rassemble et qu'on s'unit ensemble. Continue de produire en nous de bons fruits pour t'aimer et aimer les autres. À toi toute la gloire encore ce matin, Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Bonjour à tous. On va commencer en douceur. Je vais vous poser une question, vous n'allez pas me répondre de suite, vous n'allez pas sortir les téléphones, vous allez pas... mais juste répondre intérieurement et voir quelles réactions vous avez les premières. Quelles sont vos premières réactions, pardon. Si je vous dis en un mot, comment définirez-vous ce que signifie « je crains telle personne » ? Quelle est la première personne qui arrive en tête et quelles sont les réactions que vous avez en premier ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Ne vous endormez pas. Si vous voulez, vous pouvez les écrire, hein, vite fait, pour faire un bilan après. Il y a une quinzaine de jours environ, je prends un temps avec Dieu et je me suis replongée dans le livre de Jonas. C'est une histoire que je connais par cœur, sur le bout des doigts, je l'ai entendue depuis toute petite et peut-être même dans le ventre de ma mère. J'ai dû avoir les échos. Et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais souvent quand on lit un passage, on y prête un peu moins attention et limite on lit les yeux fermés parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Et on se la raconte avec nos mots aussi. Pourtant, cette fois-là, il y a un verset qui m'a interpellée et une question qui est venue à mon cœur. Est-ce que je crains vraiment Dieu au point de l'écouter ? Et avant d'aller plus loin, je veux vraiment clarifier avec vous ce que signifie craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir peur et d'avoir une terreur, d'être tétanisé ou d'être en panique. La vraie crainte de Dieu, c'est un mélange de respect profond, d'amour, de confiance et de reconnaissance de sa grandeur, de qui il est. C'est un désir sincère et profond de vouloir lui obéir, même quand c'est difficile, même quand on n'en a pas envie. Parce qu'on sait que Dieu est digne de notre confiance. Alors oui, il existe une autre crainte qui pousse à fuir, à rejeter l'autorité divine par peur ou tout simplement par colère. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Merci Jonas, je vais l'écouter ». Au travers de cette histoire, vraiment, mon désir, c'est que ça puisse faire écho comme ça m'a fait écho quand j'étais avec Dieu, seul, chez moi. Et que, comme moi, on puisse à un moment donné répondre honnêtement à cette question, est-ce que je crains Dieu assez pour l'écouter ? Parce qu'en fait, la parole de Dieu, toute écriture, est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous enseigner, nous convaincre de péché, rectifier parfois nos pensées, nous réformer et nous rendre capables de vivre selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est écrit dans 2 Timothée 3,16. Alors oui, on va explorer un peu au travers de l'histoire de Jonas quelques points clés de cette histoire. Le premier, c'est Sans crainte de Dieu, je fuis. Et on va lire dans Jonas 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il faut savoir que Ninive était la ville la plus importante d'Assyrie, qui malheureusement, elle était empreinte vraiment de perversité. Et ça, on le lit dans le livre de Nahum. Cette ville était remplie de complots contre Dieu. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la prostitution, de la magie, il y avait de la manipulation. On volait les pauvres pour s'enrichir. Et Jonas avait été élevé dans la haine envers les Assyriens, ainsi que dans la peur des atrocités qui pouvaient être pratiquées en Assyrie. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans cette situation-là que Dieu dit à Jonas, « Va à Ninive ». Il lui demande de les avertir, d'avertir le peuple, ce peuple qui haït, pour qu'il change de comportement et se tourne vers Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer cette situation-là entre Dieu qui parle à Jonas et Jonas qui limite, réagit. Dieu lui dit, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Tu veux que j'aille où ? Quoi ? À Nice ? Oui, je préfère. Non, Ninive. Est-ce que mes oreilles ont bien entendu ? Oui, je veux que tu y ailles, que tu ailles à Ninive. Attends, Dieu, je t'explique un truc. Ninive, tu es au courant de ce qu'ils font ? Tu es courant qu'il y a de l'idolâtrie ? Tu es courant qu'ils sont en complot contre toi ? Tu es courant que Tu es au courant quand même. Dieu qui répond, et alors ? Va, lève-toi. J'imagine Jonas un peu actuellement de dire, vaut mieux être sûr que d'entendre ça, Seigneur. La haine qu'avait Jonas envers Ninive était tellement intense qu'il ne voulait pas voir les Assyriens renoncer au mal et bénéficier du pardon de Dieu. Et l'attitude de Jonas reflète la réticence des Israélites à partager l'amour et les bénéfices que Dieu offre à d'autres que eux. Même si c'était Dieu qui leur demandait, même si c'était Dieu qui leur avait confié cette mission. Et Dieu dit à Jonas, lève-toi. Alors oui, Jonas se leva. Il s'est levé, mais pas pour aller dans la direction que Dieu lui a demandé. Le début de la démarche de Jonas, elle est parfaite, elle est bonne, c'est bon. Mais Ninive se trouvait à l'est de Jérusalem. Et Jonas prit la direction diamétralement opposée, Tarsis. Jonas est conscient. Il est vraiment conscient que Dieu lui donne une mission particulière à accomplir. Mais il ne veut pas la faire. Il refuse. Jonas a fui la volonté de Dieu, non pas parce qu'il doutait de la puissance de Dieu, mais parce qu'il craignait que Dieu soit trop miséricordieux envers Ninive. Arthur Pink, un pasteur baptiste et écrivain, écrit ceci, « La fuite de Jonas démontre la folie du cœur humain qui, bien qu'étant en théologie orthodoxe, est prêt à défier Dieu quand ses désirs s'opposent à sa volonté. » Jonas nous rappelle qu'on peut connaître Dieu théologiquement, que comme ce matin, on peut louer Dieu, lever les mains pendant la louange, dire « Amen » pendant le message, mais fuir Dieu dans nos décisions si notre cœur n'est pas soumis à lui, si notre cœur ne le craint pas. La vraie crainte de Dieu ne se limite pas à savoir qui il est, mais à lui obéir comme cela dérange, même si cela dérange nos désirs les plus profonds. Et la suite du verset dit que Jonas est descendu à Jaffa. Et le terme hébreu, descendre, est yarad. C'est le même mot qui est utilisé dans la continuité de l'histoire quand Jonas descend dans le bateau ou descend dans le poisson. Et il illustre bien que le fait de fuir Dieu, ne pas lui obéir, ne pas le craindre, nous mène progressivement vers le bas, nous enfonce. Et Jonas paya le prix et il embarqua. Et souvent, on est prêt à payer le prix élevé pour désobéir à Dieu plutôt que de faire sa volonté et de lui obéir, ce qui est gratuit. Charles Spurgeon a dit « Il existe toujours un navire prêt à partir pour Tarsis. Quand ton homme est déterminé à fuir loin de Dieu, et Satan s'assure que le billet est à portée de main. » J'arrive dans mon année des 18 ans. Quelques mois avant mes 18 ans, quelques mois après mes 18 ans, c'est le chaos total pour moi. Je me suis engagée à l'âge de 14 ans, j'ai pris le baptême, mais là, cette transition, passage à l'âge de responsabilité, il se passe plein d'événements, des échecs, deuil, pas mal de choses dans ma vie. Et la seule chose que je réussis, c'est mon permis. Et je me dis, allez, c'est bon, vive la liberté, on se casse, on y va. C'était mon bateau à moi. Et je m'enfonce, bien sûr, bien inlassablement, dans ce que j'avais envie de faire, dans ce que je pensais qui était bon pour moi. Et je ne donnerai pas de détails. Et à un moment, bon, je vivais toujours chez mes parents, et mon père, bien sûr, chez papa-maman, c'est les règles de chez papa-maman, je respecte. Mon père disait, vous venez au moins une fois par semaine à l'église. Et j'ai dit, ok, papa, bon, ben, un jour, je me suis dit, bon, dimanche, je vais y aller. J'y suis allée ce dimanche. Et comme on a eu ce matin, Mathieu et Mathieu, qui ont apporté une parole, une pensée, ce matin-là, j'étais au fond de l'église, sur une chaise, en train de réfléchir, et je pensais à mon avenir. Je disais, ok, ouais, ce serait bien que je fasse ça et tout. Très spirituelle, la fille. Ok, ouais, ça, comme ça, ok, bon, peut-être ses études. Et puis d'un coup, il y a une dame qui parle et qui dit, Dieu est d'accord pour tes plans, mais avant, reviens à moi. Là, je lève ma tête, je regarde tout le monde. Je me pince pour de bon parce que je me suis dit, peut-être que je suis dans un rêve et que, en fait... Et ma réponse a été non. J'ai fait comme Jonas. Dieu me demandait de revenir à lui et je lui ai dit non. Je n'ai pas voulu lui obéir. Si je fuis la volonté de Dieu, que je ne lui obéis pas, c'est peut-être quelque part de me dire « Ah, je ne crains pas tellement Dieu en fait. Je ne désire pas forcément faire ce qu'il me demande. » Et aujourd'hui, le bateau de Tarsis peut ressembler comme moi, le fait d'avoir reçu le permis de voiture. Rien à voir, mais bon. Ou peut-être un projet qui flatte notre ego, ou un loisir qui nous distrait un peu et nous éloigne de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Et on va continuer en voyant justement un autre point par rapport à la crainte de Dieu. Dire que je crains Dieu ne suffit pas. On continue la lecture dans Jonas 1, le verset 4 à 6. « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché, dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu !» Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne mourrons pas. Pendant la tempête, les marins, bien qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, crient vers leur Dieu à eux. Ils cherchent désespérément de l'aide, parce qu'ils veulent sortir du danger, ils ne veulent pas périr. Et c'est intéressant parce que ça montre que quand il y a quelque chose qui se passe, un événement assez fort, ben tout le monde est en train de chercher de l'aide. Peut-être pas à la bonne personne. Mais même ceux qui ignorent Dieu reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Ils allègent même le bateau. Ils essaient de faire plusieurs choses pour dire « Ok, on va éviter la catastrophe. » Et pendant ce chaos, très intéressant, Jonas, lui, il dort. Il dort profondément. Et son sommeil peut un peu surprendre quand même dans la tempête. Je ne sais pas comment il a fait pour dormir. Moi, je me rappelle de fin mars. Avec Magali, Léa et Sarah, dans un bateau à Marseille, au port de Marseille, pour traverser et aller à l'île du Frioul. Pendant le port, c'était bon, c'était calme, on sort du port, tempête. Mais alors, tempête, c'était le manège à sensation, avec les vagues et tout ça. Et là, nous, on voulait être dehors, et l'équipage nous dit « Vaut mieux que vous rentrez, mesdames ?» On a dit « Oh, pourquoi, il fait beau hein ?» Et là, je me dis « Jonas dort ». Et même, je crois que j'ai dit aux filles « Mais comment est-ce possible de dormir dans une tempête comme ça ?» Comment est-ce possible? Et ça ne devait pas être la pire, celle qu'on a vécue. Et c'est, le fait qu'il dorme, ça peut symboliser son refus d'affronter la réalité et sa fuite intérieure. Et ça relève que, quelque part, il n'a pas de crainte de Dieu. cette crainte qui conduit à l'obéissance. Et là, le chef des marins le réveille, il lui dit, mais attends, yo, lève-toi, appelle ton Dieu, nous on est en train de s'activer, fais peut-être quelque chose. Et ce cri est un appel pour Jonas, mais peut-être aussi pour nous, à ne pas rester spirituellement endormis lorsque tout s'effondre autour de nous, à prier, à revenir à Dieu, comme c'était dit tout à l'heure, surtout dans nos moments de crise. Après ça, l'équipage décide de tirer au sort. Pour faire quoi ? Pour connaître qui est le responsable de ce chaos. Bien entendu, qui c'est qui est tiré au sort ? C'est Jonas. Alors le chef des marins, les marins viennent et lui dire, on va le lire dans Jonas, Jonas 1, 8 à 9. Alors ils lui disent, dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? Jonas, il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Moi, je pense que là, ce passage, c'est une pépite. C'est le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau. Je suis juste émerveillée. Quand on se met dans le contexte, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. On est dans une tempête, gars. C'est juste énorme. Tous les marins s'affolent. Tous essaient de faire ce qu'ils peuvent, le maximum, pour se sauver, pour sauver leur peau. Jonas, lui, il dort. Il ne fait rien pour les aider. Et même quand il voit qu'il y a le tirage au sort, qu'il va voir le tirage au sort, qu'il va voir le tirage à la courte paille, pas un mot. Alors qui sait ? Et il ose dire, je crains l'Éternel. En fait, Jonas, tu te moques de nous là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le manque de crainte de Jonas envers Dieu le pousse à fuir, mais en plus, il met en danger aussi les autres. Ses actes ne coordonnent pas avec ses paroles. Dire je crains Dieu ne suffit pas. James Montgomery, un théologien dira « Jonas démontre qu'un homme peut avoir une théologie correcte tout en ayant un cœur rebelle, révélant que la crainte de Dieu est plus que des mots. » Je veux juste faire une précision. Il n'est pas là question de faire un procès de Jonas et de lui pointer du doigt, parce que la Bible elle a été écrite quand j'étais pas née. À la place de Jonas, on aurait pu mettre Anne. Juste, je prends sur moi. Et le cœur de Dieu n'est pas touché par des mots s'il ne s'accompagne pas d'actes d'obéissance. Dieu ne recherche pas simplement une confession correcte de notre foi, mais un cœur soumis. Soumis. Et des pas qui suivent sa voie. Même lorsque cela dérange nos plans, même si cela n'est pas dans notre volonté. Tite 1, verset 16, dira « Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais leur conduite le renie et leur acte démente leur profession de foi. Ce sont des êtres que Dieu abhorre car par leur refus d'obéir, ils se sont eux-mêmes disqualifiés pour toute œuvre bonne. » Jonas nous montre qu'il est possible de dire « Je crains Dieu, je crains l'Éternel » tout en fuyant sa volonté. Et cela, quelque part, nous invite à nous examiner. Est-ce que je confesse Dieu de mes lèvres, tout en le reniant dans mes choix ? Est-ce que ma vie reflète réellement ce que je dis croire ? Parfois, il nous arrive de dire « je crains Dieu, je suis chrétien, je suis croyant. » Et moi, la première, je réalise que cela ne se voit pas dans la façon de parler à ma famille, à ma mère, parfois ma sœur et mon père. Je me rappelle, une fois j'avais une expression, à chaque fois je disais fada, 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 et mon père il pensait que je le traitais de fada, mais c'était pas lui que je traitais de fada. Mais c'était une manière pour lui qui n'était pas agréable de parler. Et je pense qu'on a une théorie, je pense qu'il y a une théorie, c'est que souvent, les personnes qu'on aime le plus, les personnes avec qui on est le plus familier, on se permet de mal leur parler, de mal agir avec eux. Mais on se dit, je crains l'Éternel. On se dit souvent, je crains l'Éternel. Mais quand, parfois, il nous arrive peut-être au travail un petit mensonge, on va exagérer sur les heures, on va dire qu'on a travaillé tant d'heures pour être plus payé, c'est mieux. Quand aussi, on scrolle sur notre téléphone, on scrolle des heures, on regarde des choses qu'il ne faut pas, on écoute des choses qu'il ne faut pas, et puis on ne prend pas du temps pour entendre la voix de notre Dieu, pour lui obéir. Je crains Dieu. Mais je parle et je critique dans le dos de certaines personnes. Je crains Dieu. Mais quand Dieu me demande de pardonner, non Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait ? Tu sais ? Alors oui, sans crainte, je fuis Dieu. Et le confesser de la bouche, ça ne suffit pas. De ce fait, mon cœur s'endurcit et ça peut aussi mettre en danger ceux qui nous entourent. On sait que nos choix, nos décisions que nous prenons, ok, ça a un impact sur nous, mais ça a un impact aussi sur notre entourage. Et là, je me dis, « Pau, Anne, tu viens de plomber l'ambiance, merci Seigneur, gloire à toi !» Là, ça va être difficile de louer Dieu. Attends, Seigneur, c'est dur quand même ce que tu dis. Est-ce que je te crains ? Mais heureusement, Dieu me poursuit avec sa grâce. Et vraiment, je suis reconnaissante envers Dieu parce que les chants, ce matin, je n'ai même pas regardé la liste, tout ce qui a été dit, c'était vraiment... Dieu est bon. Dès le premier verset de Jonas, nous voyons que Dieu ne poursuit pas Jonas pour le détruire, mais pour le restaurer. Son but, il n'est pas de punir, mais de ramener Jonas dans sa volonté. Et ça, c'est pour le bien de Jonas. On le voit dans le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Dieu a choisi Monsieur Jonas pour porter une bonne nouvelle. Même s'il connaissait son caractère, même s'il savait qu'il haïssait Ninive, il l'a choisi. Et ce matin encore, j'ai envie de te dire que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour une mission bien précise. C'est peut-être au lycée. Alors, c'est les vacances maintenant. Ok, je sais. Excusez-moi de parler d'école. C'est peut-être au travail, mais peut-être aussi auprès de ta famille. Dieu t'a demandé quelque chose. Dieu t'a choisi pour être ce porte-parole. Et tu penses peut-être te dire, non, c'est... Parle au voisin, Seigneur, c'est mieux. Ah non, c'est pas bon. Tu veux que je parle, que je dise ça à cette personne qui ne m'aime pas, que tu es bon et... Non, je suis trop timide, ça va pas. Ah, j'ai pas le niveau spirituel. Pourtant, Dieu t'a choisi là où tu es. Et comme Jonas, il t'a choisi. Pour que tu sois porteur de cette lumière, porteur de cette bonne nouvelle, porteur pour encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Le verset 4 dit « L'Éternel fit souffler sur la mer un grand vent. » Elle est où la grâce de Dieu là ? Ce n'était pas un simple accident, ce n'était pas une simple tempête qui arrive comme ça, mais un acte direct de Dieu qui attire l'attention de Jonas. Dieu est capable d'utiliser des situations inconfortables pour nous réveiller et nous ramener à lui. Je vous ai raconté que j'ai dit non à Dieu. Il y a quelques temps qui sont passés, j'ai fait ce que je voulais. Et dans ma tempête, Dieu a utilisé une personne carrément pas croyante pour me dire maintenant stop. Arrête-toi. Tu as peut-être un projet pro qui est en train de s'effondrer. Tu as peut-être une relation qui est complètement brisée, malgré tous les efforts que tu as faits, malgré tout ce que tu as mis. Et parfois, ce n'est pas que Dieu, il t'abandonne. Mais il te réoriente. En te disant, tu ne peux pas échapper à ce que je t'ai demandé. Mais j'ai mieux pour toi. J'ai mieux pour toi. Au verset 10, malgré la crainte de Jonas qui est merveilleux, mais vraiment, c'est que Dieu fait grâce en utilisant même le mauvais témoignage de Jonas. La grâce de Dieu qui nous poursuit pour toucher le cœur des marins. Et eux qui finiront par reconnaître qu'il y a un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu puissant. C'est juste magique, c'est juste merveilleux. Et je crois que je vous l'avais raconté hein, un jour dans mon ancien travail, là où j'étais la pire journée de ce travail, en colère, et je crois que je me suis énervée. J'ai dit des mots qu'il ne fallait pas. Et il y a une collègue qui passe et qui reste à côté de moi, elle dit « Oh, j'aimerais bien rester avec toi, tu dégages la paix, la sérénité. Et... » Seigneur, quel est le mot que tu as utilisé à ce moment-là pour témoigner de ta grandeur, de ta puissance et de ton amour? Et parfois Dieu, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il nous démontre, sa grâce qui nous poursuit. Et il t'est arrivé peut-être de mal agir, peut-être de mal parler, et de tout de même avoir utilisé quand même tes paroles et ton attitude précédente pour bénir quelqu'un. Et c'est dit dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu peut utiliser nos faiblesses pour manifester sa puissance. On continue dans la lecture de Jonas au chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Je ne sais pas comment il a vécu ces 3 jours, mais le poisson, ça ne sent pas très bon. Et Dieu, il n'a pas envoyé ce poisson pour tuer Jonas. Mais Dieu a envoyé ce poisson quelque part pour mettre à part encore Jonas. Là, il ne pouvait pas bouger. Il avait ce temps pour réfléchir, être à l'écart. Et parfois, Dieu permet des temps de solitude ou des pauses forcées pour que nous fassions cette introspection intérieure. Sa grâce qui nous poursuit. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être une période de chômage. Un temps forcé, après un épuisement aussi. Ça peut être des moments. Je me rappelle qu'une année, j'avais pris mes congés pour faire un voyage humanitaire et puis mes autres congés pour faire une colo. J'ai fini la colo, un pied dans le plâtre et tout ça. Et Dieu m'a mis à part ce temps pour réfléchir et peut-être me recentrer, me recalibrer et ne pas être dans les actions, dans les actes, mais vraiment d'être connecté avec Dieu et de faire sa volonté et pas la mienne. On continue, Jonas 3:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La grâce nous poursuit. Là où nous, on ne donne qu'une chance à des personnes, Dieu donne une deuxième chance à Jonas, prouvant qu'il est un Dieu de grâce et de patience. Et tu as peut-être abandonné un engagement que Dieu t'avait mis à cœur. Tu t'es peut-être éloigné, c'était ce matin les paroles qui ont été apportées pendant des mois, des années, mais Dieu te donne aujourd'hui une autre chance de revenir à lui, d'être à son écoute, de reprendre ce qu'il t'a confié. En continuant la lecture dans Jonas, alors j'ai pas tout lu et je vous encourage à la lire en rentrant tout à l'heure ou dans la semaine. Chapitre 4, versets 3 à 6, je ne l'ai pas mis, mais Jonas s'irrite contre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jonas a finalement apporté le message de la bonne nouvelle à Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont convertis, ils se sont détournés de leur mauvaise voie et ils ont obéi. Ben, Jonas, il n'est pas content parce que lui, il ne voulait pas ça. Et il lui a dit, mais non, mais Seigneur, je te l'avais dit. C'est fou quand même. De dire, ben Dieu, je t'avais dit que tu allais agir comme ça, pourquoi tu m'envoies? Et là, Jonas s'énerve, donc il sort de la ville, il boude, allez, c'est parti, puis il essaie de se construire quelque chose pour se faire de l'ombre. Et Dieu, dans sa grâce, il fait pousser une plante pour donner vraiment de l'ombre encore à Jonas, pour montrer sa bonté. Et même face à nos mauvais caractères, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Combien de fois on a été béni? Une provision financière inattendue, une porte qui s'est ouverte, un encouragement. Tous les matins, quand on se lève, si là tu touches et que tu sens ton cœur battre, Dieu fait grâce. Dieu te montre qu'il te poursuit par sa grâce. Il fait grâce. Alors que oui, peut-être tu râlais, peut-être que tu doutais, Ah, c'est arrivé, hein. Une question à se poser, et qui me paraît pertinente et intéressante, c'est « Et si Dieu me poursuivait avec sa grâce, non pour me punir, mais pour me restaurer ?» Non pour me punir, mais pour me restaurer. Dieu n'est pas contre toi. Dieu, il est pour toi. Il est avec toi. Dieu ne cherche pas à t'enfoncer. Dieu ne cherche pas à t'écraser. Mais il cherche à restaurer son image en toi. Cette image qui a été abîmée par le péché, cette image qui a été abîmée par plein de choses. C'est comme un parent qui veut le meilleur pour son enfant. C'est comme un bon enseignant qui veut le meilleur pour ses élèves. C'est comme ceux qui veulent enseigner, accompagner, pour dire « je veux le meilleur pour toi ». Et c'est vrai que parfois, on reprend, on aiguise. Je me rappelle que j'ai raté mon bac la première année. Ça a été la guerre entre ma mère et moi. Et elle disait « oui, tu vas continuer ». Elle était en mode vraiment m'encourager et tout ça. Et je te dis que non, et de toute façon... Et ma mère, mais de toute façon, je t'aime et tu iras quand même à l'école et tu passeras ton bac une deuxième fois. J'ai passé mon bac, je l'ai réussi. Merci Seigneur. C'est un exploit inespéré. Dieu n'est pas contre nous. Il est pour nous. Dieu désire notre bonheur. Dieu désire que nous progressions, que nous allions de l'avant. Dieu désire ta restauration, ton épanouissement en lui. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et comme le verset dans Jérémie le dit, il connaît les projets qu'il a formés, les projets de bonheur et non de malheur. Dieu poursuit Jonas avec grâce. Et Dieu te poursuit, toi aussi, aujourd'hui, non pour te condamner, mais pour te restaurer, te relever et te ramener dans sa volonté parfaite pour ta vie. Je vais demander à l'équipe de louange si elle veut bien monter. On voit que l'histoire de Jonas nous montre que on peut fuir Dieu quand nous ne le craignons pas vraiment. Que nous pouvons dire de notre bouche, oui, je crains Dieu, oui, oui. Par contre, nos comportements ne sont pas adéquats avec les paroles que nous sortons. Et au milieu de notre fuite, au milieu de nos contradictions, Dieu nous poursuit avec grâce et c'est ce qu'il faut retenir, Dieu nous poursuit avec grâce, non pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Et aujourd'hui encore, que vas-tu répondre à cette question ? Est-ce que je crains Dieu au point de l'écouter ? Alors oui, le titre du message c'est « Merci Jonas, je vais l'écouter ». Est-ce que tu crains Dieu au point de l'écouter ? Peut-être que ce matin, tu réalises que tu as fui ce que Dieu t'a demandé, tes responsabilités. Peut-être que tu dis de ta bouche, mais oui, je crains Dieu, mais que tes actes ne sont pas en accord avec ce que ta bouche dit. Et peut-être que Dieu te parle depuis un moment, depuis que tu es rentré dans ce lieu. Mais que toi, tu es parti, tu es monté dans ce bateau, pour ton Tarsis à toi, dans un domaine de ta vie. Il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu te poursuit avec sa grâce. Aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle à te lever. Il t'appelle à revenir à lui. Il t'appelle à choisir de l'écouter. Même si cela coûte. Même si je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'il est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance parce qu'il est bon et parce qu'il désire te restaurer, pour que tu accomplisses les plans qu'il a pour toi. Et ce matin, je vais faire comme un appel à deux directions. Si tu es une personne qui ne connaît pas Dieu, que tu sois ici dans ce lieu ou derrière l'écran, qui entend parler de Dieu depuis quelque temps, mais qui ne veut pas craindre Dieu, et tu entends cet appel, Dieu te poursuit avec grâce, Dieu te poursuit avec amour. Aujourd'hui, il t'appelle. Sa grâce te poursuit et il désire te pardonner, te restaurer. Il désire te donner une nouvelle vie, une nouvelle direction. Et à toi qui peut-être est déjà croyant depuis quelques jours, quelques mois, quelques années. Et peut-être que ce message t'a fait écho dans ton cœur parce que tu as fui tes responsabilités de ce que Dieu te demandait. Ou ben, tu confesses de ta bouche que tu crains Dieu, mais tes actes n'y sont pas trop en accord avec tes paroles. Ces deux appels sont là. L'équipe de louange va prendre un chant. Ce chant dit « Tu m'aimes ». Malgré tout ce que j'ai fait, malgré mes différences, malgré tout ça, Seigneur, tu m'aimes. Tu m'as tellement aimé que tu es allé jusqu'à la croix. Tu as été cloué, crucifié pour me donner une vie meilleure. Alors pendant ce chant, vraiment, prenez cette décision de vous lever ou pas. Et après, je viendrai prier.
Ne peux dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, ni la mort, ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais, oui, je le crois, rien ne pourra m'éloigner de toi.
C'est tellement bon, Seigneur, de se sentir aimé par toi. Et ce matin, je veux vraiment te prier de tout cœur. De prier pour celui ou celle qui n'a pas encore ouvert son cœur à toi. Et te prie, Seigneur mon Dieu, parce que te craindre, t'obéir, avancer avec toi, c'est une vie nouvelle que tu nous offres. Te prier pour que, Seigneur, il, elle, puisse ouvrir son cœur à toi, se donner à toi. Découvrir, Père, que tu es ce meilleur ami, ce conseiller, ce confident, ce Père d'amour qui veut le meilleur. S'il te plaît, agis par ton esprit. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour nous qui sommes là à dire oui, je te crains. Mais je fuis les responsabilités que tu me demandes. Oui, je te crains, Seigneur, mais Père, mes actes ne sont pas en accord avec ce que je dis. Et bien humblement ce matin, de tout mon cœur, aide-nous, viens à notre secours. Encore pardon, Père. Conduis-nous à te ressembler de jour en jour. Encore aujourd'hui, tu nous donnes cette chance de pouvoir recommencer à nouveau. Alors aide-nous par l'action de ton esprit dans nos vies. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Est-ce qu'on peut, dans ce lieu, vivre ces paroles des Écritures qui disent « Acclamez Dieu, gens du monde entier, reconnaissez sa grâce, sa fidélité. » Que Dieu nous aide à serrer ces paroles contre notre cœur de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été déposé. Si vous voulez prolonger ce moment et vous avez vraiment, ça fait écho, ça éveille des choses en vous et vous voulez juste aller un petit peu plus loin, on a un espace juste à ma gauche, à votre droite, un espace d'écoute et de prière. L'idée étant d'accueillir toute personne qui dans ce moment, interpellée par Dieu, a besoin, peut-être pour une échéance qui arrive cette semaine ou une échéance qui est arrivée la semaine dernière, juste se poser, échanger, prier et vivre une communion fraternelle, quelque chose de cet ordre-là. Dans un instant, il y a un espace qui est ouvert pour vous, donc je demanderai à vous qui êtes dans l'allée extrême à gauche de bien vouloir juste libérer les lieux, de se rendre le maximum vers le hall. Et là, je parle à chacune et chacun d'entre nous de manière à ce que ce lieu puisse être posé pour que les gens qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin d'un peu de calme, puissent le trouver avec nos équipiers de prière. On vous bénit et on remercie le Seigneur pour toute cette semaine qui arrive là aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment et on vous dit à très très bientôt. Soyez bénis.